Frères et sœurs, par une lecture que l'on trouve dans le livre des Juges au chapitre 6, et on va lire simplement quelques versets à partir du verset 11. Juges chapitre 6 et le verset 11, c'est un texte que la plupart d'entre vous avez lu bien des fois. Il fait partie des récits très classiques de l'Ancien Testament, mais il y a un détail, un élément sur lequel j'aimerais que nous puissions méditer ce soir. Juges 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Amen. » Et je crois que ce soir, le Seigneur veut se tourner vers chacun d'entre nous et nous adresser une parole qui va mettre notre service chrétien en mouvement pour relever nos défis d'aujourd'hui. Il y avait un défi que Gédéon allait relever d'une manière victorieuse et prodigieuse. Et puis, il y a les défis modernes que le Seigneur veut nous équiper à affronter victorieusement. Je voudrais relever dans la salutation que Dieu adresse à ce jeune homme, Gédéon, une qualité qui va faire la différence. Vous savez, frères et sœurs, Dieu sera particulièrement touché et attentif, touché par certaines qualités que nous manifesterons. Par exemple, l'humilité, c'est une qualité qui va attirer l'attention de Dieu. Des qualités comme cela, la vérité, la sincérité, l'authenticité du cœur. Quand Dieu remarque la vérité dans le cœur, alors c'est une qualité qui attire son regard. Il y a ainsi des qualités, la miséricorde. Si tu te plais à exercer généreusement la miséricorde, cette qualité attirera sur toi le regard favorable de Dieu. La preuve, Jésus dira « Heureux les miséricordieux, car eux-mêmes obtiendront miséricorde. » Et ici, Dieu va remarquer une qualité chez Gédéon, une qualité de telle importance que Dieu lui-même va descendre. Il va visiter le jeune homme. Et dans sa salutation, il va rendre témoignage en disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » J'aimerais vous parler ce soir de la vaillance. Elle fait partie des qualités qui vont attirer particulièrement sur nous le regard de Dieu. Vaillant héros. Alors lui, Gédéon, quand il a entendu parler d'un vaillant héros, il s'est retourné, il a cherché, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? Il est où le vaillant héros? Lui, personnellement, il avait une image de lui-même très très différente, très différente. D'ailleurs, il va le dire spontanément. Vaillant héros, oh, Seigneur, éternel, où sont les miracles, l'éternel nous abandonne, etc. C'est un jeune homme qui, en réalité, est dans une situation de grande faiblesse, de grande fragilité aussi, mais il y a une étincelle en lui. Alors que tout le monde a baissé les bras, lui, il se dit, si je peux faire quelque chose, même de minime, je vais le faire quand même. Et il est en train de battre un peu de froment, c'était peut-être pas grand-chose, mais il exprimait un état de cœur de vaillance, et ceci a touché le cœur de Dieu, et le vaillant héros que Dieu voyait en lui va effectivement s'affirmer, et un petit peu de froment, ça c'était le commencement, et puis après il va s'enhardir, il va abattre le pieux idolâtre, il va aller plus loin, et puis vous le savez, ça va finir par une éclatante délivrance. Gédéon va entrer dans ce processus de vaillance. Et vraiment, je crois, frères et sœurs, que nous vivons des temps qui sont les temps ultimes avant le retour de Jésus, et plus que jamais, l'Église a besoin de vaillance. Les croyants d'aujourd'hui ont impérieusement besoin de vaillance. Le dictionnaire définit cette qualité de cette manière. Valeur guerrière, bravoure, courage d'une personne que ni la souffrance, ni les difficultés, ni le travail n'effraient. C'est la définition. On peut donner quelques synonymes, hein. On a cité la bravoure, ça peut être l'audace, le courage, l'héroïsme, l'intrépidité. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, parle de la ferme assurance, et on pourrait prolonger la liste, mais vous et moi, frères et sœurs, nous avons besoin, par l'assistance, bien entendu, du Seigneur, de posséder cette qualité de la vaillance, de la nourrir, et de la développer, et de la manifester. Le contraire de la vaillance, c'est la lâcheté, la démission, la paresse, la crainte, l'incrédulité, la résignation, le fatalisme, etc. Donc, c'est sur cette qualité que j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants. La vaillance spirituelle de l'enfant de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que tous les exemples des saintes Écritures, et en particulier de l'Ancien Testament, sont là, consignés dans les Écritures, pour nous servir d'exemple. Alors ces derniers temps, à deux reprises déjà, je vous ai parlé de David avec l'ours, le lion, Goliath, etc. C'est vrai que parmi les modèles de vaillance, comment ne pas parler de David ? Et comment ne pas ajouter ce témoignage favorable lorsque Dieu dit « J'ai trouvé David ». Ah bon, tu as trouvé un adolescent ? Oui, oui. Mais pour moi, ce n'est pas un adolescent, c'est un homme selon mon cœur. Il fera toute ma volonté. J'ai trouvé David. Et c'est vrai que David, alors David, bien sûr, c'est un personnage aux qualités multiples. On pourrait parler de sa sensibilité à Dieu, on pourrait parler de sa dimension de prophète, il se présentera lui-même comme le chantre agréable à l'Éternel, il a plusieurs facettes extraordinaires, mais il y a quelque chose qui ressort beaucoup de son parcours et de sa biographie, c'est sa bravoure et c'est cette qualité de la vaillance. Quand on rentrait de campagne militaire, toutes les demoiselles chantaient « Saül a tué ses 1000, mais David ses 10 000 !» Alors Saül n'était pas content. Hein. Le petit jeune, il fait des performances supérieures. Hein. Et très tôt, on a remarqué chez David cette qualité de la vaillance. Et voyez-vous, cette vaillance de David, elle a été contagieuse. Dans une séquence pourtant très instable de sa vie, alors qu'il fuyait devant Saül, une séquence très précaire, où la menace était omniprésente, la Bible nous dit que quelques centaines, 400 personnes ont choisi de s'attacher à David. L'Écriture dit ceci, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de David et il devint leur chef. C'est comme ça que la trajectoire de David le portant vers le trône a commencé avec 400, une poignée de personnes qui n'étaient vraiment pas l'élite. On n'aurait pas misé beaucoup sur ces gens-là, c'était des gens dans la détresse, des gens mécontents, frustrés, démoralisés, des personnes qui avaient des créanciers, donc déjà ils n'arrivaient pas à pourvoir à leurs besoins, comment allaient-ils pouvoir aider aux besoins de David? Ils n'avaient rien à apporter à David, mais ils vont venir auprès de David. J'ai envie de dire sous l'aile de David. Et la Bible dit David va devenir leur chef. En devenant leur chef, il va devenir leur modèle. Il va devenir leur exemple. Et au contact de leur chef, ces personnages piteux vont devenir à leur tour les vaillants soldats de David. Quand dans l'avant-dernier chapitre du deuxième livre de Samuel, vous lisez toute une liste, ces vaillants soldats, le premier qui est cité là, avec une lance et d'un seul coup, il liquide 800 soldats. Là, on est dans le surnaturel. Le deuxième, il est là, et dans un moment très délicat de la bataille, il voit que tout le monde fuit, mais lui, avec son épée, il fait face à l'ennemi, et jusqu'à ce que son bras soit plus capable d'aucun mouvement, il décime les ennemis, et en fin de bataille, il n'arrive même plus à se détacher de son épée. Moi, je crois que nous devons tellement être attachés aux promesses de la parole de Dieu que l'épée qu'elle est notre service, notre bras, ne doit faire qu'un. Le troisième, lui, dans un moment pareil de débandade générale, il voit qu'il y a une grande pièce de lentilles à défendre, un champ à défendre. Il fait face à l'ennemi et il suscite la débandade chez l'adversaire. C'était des gens au départ de détresse, criblés de dettes, des parias, des asociaux, mais au contact de David, leur exemple, la vaillance de leur chef s'est communiquée à eux. Et je crois, mes frères et mes sœurs, que nous avons fait un jour un choix similaire au leur lorsque nous avons choisi Jésus-Christ comme notre Seigneur. notre sauveur, notre chef. Gloire à Dieu. Le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, je ne lui ai pas apporté des richesses, des mérites, des choses avantageuses. Je lui ai apporté un cœur vide, d'un adolescent perdu. Je lui ai apporté une existence fade, sans idéal, sans flamme. Je lui ai apporté un cœur malheureux. Comme ces gens sont venus auprès de David, je me suis blotti sous l'aile du Sauveur. Gloire à Dieu. Jésus est devenu notre modèle, notre chef, notre exemple. D'ailleurs, on a appelé les disciples de Jésus des chrétiens, c'est des païens qui ont inauguré ce terme, avec une connotation un petit peu de dérision, parce que ils voyaient dans le comportement des disciples de Jésus tellement le désir de ressembler à leur maître, alors ils les ont appelés, c'est des petits Christ, des petits onctueux, parce que Christ c'est loin, chrétien c'est l'onctueux, vous savez, c'est les petits carrés de fromage blanc l'onctueux, là, un peu là, voilà, c'est dans la bouche des païens, c'était une intention plutôt de mépris, n'est-ce pas? Mais sans le savoir, ils étaient en train de rendre un témoignage très fort. C'est que ces hommes et ces femmes étaient tellement attachés à Christ qu'ils voulaient lui ressembler. Et mon frère, ma sœur, dans ta relation personnelle avec Jésus, il va se passer quelque chose. C'est la volonté de Dieu. Il va se passer quelque chose. C'est que ta faiblesse naturelle va faire place à la vaillance du Seigneur. Tes limites humaines, ta promptitude à te décourager, ta fragilité, nous sommes d'argile, donc nous sommes des gens vulnérables, nos capacités sont très limitées, mais au contact de notre chef, dans la relation privilégiée que nous entretenons avec lui, il se passe quelque chose. Ses vertus se communiquent à nous. Et entre autres, sa vaillance. Si David a été vaillant, Jésus l'a été dans une dimension tellement supérieure. La vaillance de Jésus. La vaillance de Jésus. La Bible nous rend témoignage dans les évangiles de l'attitude du Seigneur Jésus. Certes, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, mais dans de nombreuses circonstances, quelle vaillance! Il est seul dans un désert après 40 jours de jeûne, et dans un état physique très diminué, il est en train de livrer un combat contre le tentateur. Et dans ce combat, quelle vaillance! Face aux subtilités de l'adversaire, à ses propositions pour le faire tomber d'une manière ou d'une autre dans un piège, Jésus démontre une vaillance imperturbable. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable a bien vite dû se rendre à l'évidence, il ne trouverait pas la moindre faille en Christ. Face au diable, face à ses tentations, face à ses mensonges, lorsque par des pensées porteuses de troubles, l'ennemi veut troubler ton âme, que la vaillance du Seigneur se communique à toi. Et que tu puisses, avec son autorité, réagir avec cette ferme foi qui va faire comme une injonction à l'encontre de l'adversaire. La Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen, gloire à Dieu. La vaillance de Christ face aux hommes malveillants, calculateurs, hypocrites, guettant la moindre fissure pour l'atteindre. La vaillance de Jésus face aux circonstances en pleine tempête. Il se lève et il domine les éléments déchaînés et le vent et la mer lui obéissent. La vaillance de Jésus face à sa mission lorsque, à Gethsémané, il est là. Il est à la veille de vivre les instants insoutenables de la crucifixion. Mais quelle vaillance! Il prie, il intercède, et au final, il ponctue sa prière toutefois, Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh, gloire à Dieu, quelle vaillance! Il gravit ensuite le chemin de Golgotha. Il s'offre comme l'agneau de Dieu. Quelle vaillance face à sa mission! Eh bien, voyez-vous, cette vaillance du Seigneur Jésus, elle va se communiquer aux disciples précisément dans la chambre haute par le moyen du baptême dans le Saint-Esprit. J'aimerais terminer ce message, frères et sœurs, pour faire un lien immédiat et direct entre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et la vaillance divine que cette expérience va communiquer aux êtres fragiles que nous sommes. Moi, quand je vois les disciples avant la chambre haute, c'est pas les mêmes disciples après la chambre haute. On est bien d'accord? D'ailleurs, le Seigneur leur avait recommandé d'une manière explicite, ne partez pas, ne commencez pas la mission à laquelle je vous appelle, attendez d'abord la promesse du Père. Car, dans peu de jours, eh bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous recevrez une telle vaillance que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque ces 120 disciples dans la chambre haute se sont tenus en prière, ont prié. Ils ont attendu la promesse du Père. C'était une chose qu'ils avaient du mal à définir. C'était la promesse du Père. Mais en pratique, c'était quoi? Ils priaient sans savoir trop précisément de quelle manière concrète la chose allait se manifester. Puis le dixième jour, le jour de la Pentecôte, un vent impétueux balaye la chambre haute. Des langues de feu se posent sur chacun d'entre eux. Oh Seigneur, que ça soit la chambre haute ce soir. Amen. Que nous soyons visités par le Saint-Esprit, gloire à Dieu. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit engendrera des résultats infiniment supérieurs à des dizaines et des dizaines de prédications, de sermons. Expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit va te conférer la vaillance de ton Seigneur. Tu vas devenir à son image, animé, porté, transporté par la vaillance de Christ. Et ces hommes et ces femmes ont été métamorphosés par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas que le parler en langue, ça serait réducteur. Le parler en langue en est le signe extérieur qui en atteste, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un être faible et fragile qui est investi, qui est inondé de la vie de Christ. C'est le Saint-Esprit qui prend de Christ ses vertus, dont la vaillance, et qui la déverse dans chaque enfant de Dieu. On ne les reconnaît plus. Quelle vaillance ! Pierre, qui tremblait devant une servante il y a quelques jours encore, en arrière, là, va démontrer une vaillance qui a surpris tout le monde lorsqu'il répondra aux injonctions et aux menaces des tribunaux d'alors. Jugez vous-même s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Quelle vaillance ! Quelle vaillance ! Ils vont traverser les emprisonnements, la lapidation comme Étienne, la décapitation comme Jacques, les menaces, les persécutions, mais rien, rien n'allait arrêter ces apôtres et cette génération de chrétiens, parce que après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, une puissance divine va motiver envers tout, malgré tout, leur zèle et leur motivation de témoin du Sauveur. L'apôtre Paul va dire même, leur voix est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Arménien qui vous parle est quelque part redevable à la vaillance de ces premiers chrétiens. Parce que c'est les deux apôtres Thaddée et Barthélemy, deux des douze là, qui ont été à l'origine de l'évangélisation de l'Arménie en l'an 40. Ils sont allés avec une vaillance extraordinaire. Ils ont affronté le paganisme violent, les persécutions barbares. Parce que, bon, nous les Arméniens, on était des païens et des barbares, hein. Et avec courage, ils ont rendu témoignage à Jésus. Les païens commençaient à se convertir, ils étaient persécutés, emprisonnés, jetés dans une fosse. Des décennies passent, un siècle, deux siècles, trois, et un bébé, prénommé Grégoire, du royaume d'Arménie, va être in extremis sauvé d'un massacre. Toute sa famille va être massacrée, sauf ce bébé, rescapé, providentiellement. On l'amène en Cappadoce. En Cappadoce, il grandit, et tout gosse, il rencontre des chrétiens qui lui parlent de Jésus. En Arménie, à l'époque, on adorait le soleil, on a la déesse Anaïde et toutes sortes de mythologies. Il rencontre Jésus, très jeune, il rencontre Jésus. Grégoire se convertit. Il est bouleversé. Il a enfin trouvé le Dieu véritable. Très rapidement, Dieu allume dans son cœur un appel. Et Dieu lui dit, il faut maintenant que tu retournes en Arménie et que tu rends témoignage de Jésus que tu viens de rencontrer. Et la vaillance du Seigneur a transporté ce jeune homme, il a obéi. Il savait ce qu'il encourait. Il est arrivé en Arménie, où il a été embauché dans la fonction publique, et très rapidement, il ne pouvait pas contenir sa foi bouillonnante, il parle de Jésus, il parle de Jésus, il parle du Dieu vivant. On le repère très vite. L'information remonte au roi Tiridate, qui le fait capturer, et le fait jeter dans une fosse appelée la fosse de Grégoire, au pied du mont Ararat. C'est un lieu qui est devenu aujourd'hui un grand lieu de pèlerinage, etc. Et pendant 13 ans, ce jeune homme est là au fond de la fosse avec des scorpions, des serpents. Mais Dieu avait ordonné à une croyante de livrer tous les jours un repas aux prisonniers. C'est ainsi qu'il va traverser ses 13 années de captivité. Dans la cour royale, dans le palais royal, un événement inattendu et très subit va se produire. Le roi Tiridate va sombrer dans une forme sévère de démence, comme le roi Nebuchadnezzar dans le livre du prophète Daniel. Il devient complètement fou, il adopte des postures d'animal, de bête sauvage, avec des expressions gutturales, des rocs, etc. On fait venir tous les gourous, tous les sorciers, tous les magiciens, tous les prêtres païens du royaume. Son état s'aggrave et au bout d'un certain temps, sa sœur lui dit « On a tout essayé. Est-ce que le Dieu de Grégoire ne pourrait pas te guérir ? Fais venir Grégoire. » On le sort de sa fosse et voici maintenant que Grégoire est devant le roi avec la famille royale, les courtisans, et avec vaillance, avec clarté, il rend témoignage qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'un seul, créateur de l'univers, créateur de tout, qui se révèle à nous par un seul moyen, Jésus-Christ. Il rend témoignage et il prie en faveur du roi, il prie Dieu au nom de Jésus et le Seigneur guérit le roi. À partir de là, un mouvement de réveil, de conversion authentique, de repentance parcourt le royaume d'Arménie en partant du trône jusque dans les couches les plus basses, les paysans, etc. Et en l'an 301, de notre ère, le roi déclare que la foi dans l'évangile de Jésus-Christ serait désormais la foi des Arméniens. Alors vous comprenez que je suis un peu redevable à la vaillance de ce jeune prédicateur qui portait d'une manière divine par un zèle quelque chose de surnaturel a pu rendre témoignage. Dieu veut te communiquer la vaillance dont tu as besoin. Il faut être vaillant aujourd'hui hein, pour être un témoin du Seigneur. Il faut être vaillant dans les facultés, dans les écoles. Il faut être vaillant dans nos lieux professionnels. Il faut avoir cette vaillance. L'apôtre Paul dira « J'ai travaillé plus que tous ». C'est un témoignage à la vaillance qui a porté cet homme. « J'ai travaillé plus que tous ». Je termine sur cette notion. Travailler, pour l'apôtre Paul, c'était plus que de multiplier des activités. Il s'agit d'un travail spirituel, un travail inspiré. Moi, je dis que cette vieille octogénaire appelée Anne démontrait une vaillance spirituelle lorsque tous les jours, elle se tenait dans le temple en prière. Est-ce que vous êtes d'accord ? Quelle vaillance ! Veuve très tôt, elle a consacré sa vie tous les jours dans le temple. Elle priait. Quoi d'étonnant alors qu'au moment opportun, l'Esprit de Dieu les saisit et a fait d'elle une proclamatrice du Sauveur. La vaillance dans la prière. Peut-être ta vie de prière est quelque peu émoussée. le Saint-Esprit veut te remplir et te donner une nouvelle vaillance. Remets-toi à prier, hein, amen. Remets-toi à prendre du temps dans l'intercession, la vaillance dans l'adoration, la vaillance dans le témoignage, une vaillance pour lire la parole de Dieu, la méditer, une vaillance également, bien sûr, pour remplir notre mandat missionnaire. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'histoire de l'Église nous montre qu'il y a des mouvements qui ont connu leur moment de sommet spirituel, mais qui, d'une manière absolument subtile et insensible, ont laissé leur vaillance se fatiguer. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des mouvements, mais des monuments. Mais que Dieu nous aide, nous, à être toujours dans le mouvement missionnaire. Que le Seigneur nous confie, gloire au Seigneur. J'ai travaillé plus que tous. En 2023, bientôt 2024, l'Église du Seigneur Jésus est appelée à travailler aussi, à travailler au salut des perdus, à travailler à l'accomplissement de ce que Christ a dit, « Je bâtirai mon Église ». Nous sommes depuis 2000 ans dans une grande œuvre de construction. C'est la construction de l'Église, non pas de parpaings, mais de pierres vivantes. Il y a encore au dehors des hommes, des femmes que Dieu veut sauver, et pas forcément aux antipodes, mais dans ton quartier, dans ton lotissement, peut-être même sur le palier de ton immeuble, là où tu habites. Peut-être que la boulangère chez qui tu prends ta baguette et tes croissants le dimanche, c'est quelqu'un vers lequel Dieu veut t'envoyer. Que Dieu anime son Église de vaillance. Alléluia. Et je le répète, cette vaillance, elle découlera uniquement du baptême dans le Saint-Esprit, renouvelé chaque jour, cette onction, ce revêtement de puissance. J'ai besoin d'être chaque jour renouvelé d'une huile fraîche. Gloire à Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une médaille avec une date, mais c'est une vie quotidienne. Et pourquoi ce soir, ça ne serait pas l'occasion d'expérimenter un renouvellement dans la vie du Saint-Esprit? Peut-être avec Jean-Philippe, on va chanter